En Hauts-de-France, il existe plus de 100 000 associations. Elles mobilisent 1 million de bénévoles et emploient plus de 200 000 salariés. Qu'elles relèvent du champ social, sanitaire, culturel, sportif ou de l'éducation populaire, toutes sont préoccupées par les politiques d'austérité budgétaire dont elles sont victimes. Dans ce cadre, le mouvement associatif Hauts-de-France participe à l'appel national à la mobilisation le 11 octobre en appelant à manifester dans les rues de Lille sous le slogan général « Ça ne tient plus ». Rencontre avec le mouvement associatif Hauts-de-France, avec Thierry Coulon, son président, Marine Raquelboom, directrice régionale de l'URIOPS, Hugues Deniel, président de la FAS, Fédération des acteurs de la solidarité, et Ondine Chorin, chargée de mission plaidoyer pour le mouvement associatif Hauts-de-France.
Thierry Coulon, je suis le président du mouvement associatif régional donc des Hauts-de-France. Professionnellement, je suis délégué général de la Fédération des centres sociaux Nord-Pas-de-Calais. Donc le mouvement associatif au niveau national, c'est d'abord le regroupement et la coordination des principales têtes de réseau associatives, alors qu'elles soient dans le domaine culturel, action solidaire, solidarité internationale, action sociale, culture, sport, etc. Donc on est un mouvement qui se veut réunir et qui se veut se faire rencontrer la diversité du monde associatif par le biais de cette tête de réseau, fédération, etc. Dans les Hauts-de-France, on est bien évidemment la déclinaison de ce mouvement associatif national. 20 têtes de réseau également dans cette diversité-là sont réunies dans le mouvement associatif régional. Donc en gros, notre objectif c'est, un, de porter la parole des associations dans leur diversité, des petites, des grandes associations, des associations avec des salariés, des associations sans salariés, des associations avec des subventions, d'autres qui n'en ont pas. Donc on est bien le haut-parleur du monde associatif dans sa diversité. Redire que le monde associatif, c'est avant tout de la cohésion sociale, c'est avant tout du service aux habitants, c'est avant tout des actions diverses qui permettent aujourd'hui d'aller à la rencontre, d'appuyer, d'accompagner les plus fragiles, mais aussi les citoyens dans leur envie de s'engager au quotidien, parce que le monde associatif, c'est aussi certes des salariés du monde associatif, mais avant tout des habitants et des habitantes engagés sur leur territoire.
On va continuer le tour de table. Bonjour.
Bonjour, donc je suis Marine Raquelboom, donc je suis pour le LMA vice-présidente du LMA Hauts-de-France et je suis plus professionnellement directrice régionale de ce qu'on appelle l'URIOPS. Donc je vais vous dispenser de l'acronyme, mais tout simplement c'est un réseau d'associations qui œuvrent, en tout cas qui accompagnent les personnes dans le champ des solidarités, donc les personnes âgées, les personnes malades, les personnes en situation de handicap, la protection de l'enfant dont on entend aussi beaucoup parler. L'URIOPS, c'est un peu plus de 400 associations qui sont adhérentes, mais mon propos aujourd'hui, il est aussi au-delà de mon simple réseau, mais aussi simplement ce qu'on appelle le collectif des métiers de l'humain et qui rassemble toutes les têtes de réseau, en tout cas les fédérations et réseaux qui œuvrent auprès de ce public.
Et puis on va rappeler à nos auditeurs que quand vous allez entendre le mot LMA dans cette émission, ça veut dire le mouvement associatif. Bonjour.
Bonjour, je suis Ondine Chorin, salariée du LMA, le mouvement associatif Hauts-de-France, sur la fonction plaidoyer. Ma mission, c'est de défendre, valoriser et améliorer les conditions d'exercice des associations.
C'est-à-dire que vous collectez la parole et ensuite vous dites voilà ce qui ne va pas.
Exactement, je travaille à développer une expertise sur le monde associatif avec des données, des chiffres pour expliquer justement ce qui ne va pas et le quantifier. Je travaille à rencontrer des élus, des partenaires publics, des collectivités locales, justement pour leur signaler ce qui ne va pas et essayer de changer les choses. Et voilà, je travaille sur la mobilisation citoyenne et les relations presse également.
On reviendra vers vous au cours de cette émission. Bonjour.
Bonjour, je m'appelle Hugues Deniel, je suis président de la FAS, Fédération des acteurs de la solidarité. Pour faire simple, c'est une fédération qui s'occupe, au travers de ses adhérents, des personnes qui sont dans la précarité, qu'elles soient énergétiques, sociales, santé, la rue, pour vous donner un chiffre, parce que je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes, c'est 200 000 personnes qui sont accompagnées par nos adhérents tous les matins dans la région de France.
Donc le mouvement associatif appelle à une grande mobilisation, tant au niveau national que sur les territoires, le samedi 11 octobre, avec une alerte qui contient un slogan clé qui est « ça ne tient plus », autrement dit « question vitale pour la vie des associations ». Est-ce que vous pouvez nous en donner les grandes raisons ?
On est depuis quelques années sur un mouvement associatif, sur un modèle économique en tout cas associatif qui est de plus en plus fragilisé. On a eu le Covid, on a eu le post-Covid et notamment l'inflation qui a profondément percuté la vie des associations puisqu'une augmentation des charges comme tout un chacun et en parallèle des moyens et notamment des subventions qui sont soit stagnantes, soit à la baisse, ce qui veut dire que notre modèle économique ou socio-économique est hyper fragilisé, voire en danger. Depuis quelques années, on a bricolé des choses, on a inventé des nouvelles choses pour contenir ces difficultés financières, avec des besoins des habitants et des habitantes, notamment des plus fragiles, qui sont grandissants. Donc ça veut dire pour moins de sous, plus de charges, et plus de besoins, et aujourd'hui, ce bricolage permanent qui nous a permis de continuer notre activité, ça ne tient plus, d'où ce slogan fort, aujourd'hui ça suffit, ça ne tient plus, il faut que les décideurs, les politiques publiques se disent, faut réagir, on a un projet de loi des finances, en tout cas du précédent gouvernement, qui était assez alertant pour nous, puisque la ligne jeunesse, vie associative, vie sportive, solidarité était fortement impactée. Ça veut dire qu'on est déjà en difficulté. Et en plus, on semble ne pas être la priorité des priorités. Or, on pense qu'on est le lieu de la cohésion, le lieu de l'accompagnement, notamment des habitants et des habitantes les plus fragiles, quoi.
Alors vous notez une restriction, une baisse des subventions en direction des associations. Il y a eu aussi, je pense, une modification de la distribution ou de la répartition de ces subventions sur les associations, avec notamment ce qu'on appelle les appels à projets. Comment vous appréciez cette nouvelle démarche qui introduit finalement une concurrence entre les associations et qui favorise forcément les plus grosses ?
Globalement, la part des subventions, c'est-à-dire la subvention, c'est quoi pour nous ? La subvention, c'est dans une dynamique d'intérêt général et on en finance pour ce qu'on est, pour ce qu'on fait. L'appel à projet qui se multiplie, hein, aujourd'hui, la part de la subvention ne représente plus que 41% des financements des associations, alors notamment celles qui ont des salariés, celles qui ont des conventions avec les collectivités publiques. Donc, on passe d'un modèle où l'association est financée pour ce qu'elle est, pour son projet, à plutôt un appel à projet qui est finalement répondre à des envies, des besoins des collectivités locales, de l'État, en gros des pouvoirs publics. Et c'est là où ça matche moins, c'est-à-dire que nous, les associations ne sont pas là pour faire plaisir aux politiques publiques, mais elles sont là pour mettre en place des projets qui répondent aux besoins des habitants. Alors quelquefois c'est concomitant, mais on voit bien que ce modèle d'appel à projet nous fragilise puisqu'il nous insécurise, et vous l'avez dit, peut nous mettre aussi en concurrence entre nous. C'est-à-dire qu'on ne doit pas être nous les instruments d'une politique publique, on doit être bien développer des projets par rapport aux besoins des citoyens et des citoyennes. Donc ça ne marche plus dans le bon sens, et cette instrumentalisation grandissante est un sujet très préoccupant pour nous.
Je voulais compléter le propos de Thierry, tout simplement pour, au-delà du fait que ça nous met en concurrence, ça met aussi en difficulté les petites associations, puisque qui dit appel à projet, ça demande à remplir un dossier, à se poser pour dire quel est l'objectif, la question de l'évaluation qui est chère aussi à nos financeurs, et en toute logique, hein, c'est assez logique d'évaluer finalement les finances publiques, mais simplement ça demande en tout cas ce qu'on appelle nous de l'ingénierie, c'est-à-dire à un moment donné d'être en capacité de proposer un projet, de définir des objectifs, de définir des indicateurs d'évaluation. Et ça, pour des associations de taille importante, on va dire qu'il y a le staff, il y a l'équipe qui peut y répondre, mais les petites associations qui sont plus locales et qui sont chères finalement au tissu associatif, à la vie rurale, que ce soit dans le rural comme dans l'urbain, mais c'est très important, de toutes ces petites associations qui font vivre et qui favorisent la cohésion sociale, c'est d'abord ces petites associations-là qui ont plus de difficultés à pouvoir répondre à ces appels à projets, à aller décrocher les financements, et c'est là où ça rajoute en tout cas de la difficulté dans le système des appels à projets.
Compliqué aujourd'hui que d'entendre des associations dire on a besoin de subventions pour du fonctionnement quand on nous parle à longueur de journée de besoin d'économie, d'éponger une dette et avec ce risque finalement de dire mais si le monde associatif ne peut plus le faire parce qu'on ne peut pas lui donner les moyens, on pourrait très bien demander au monde de l'entreprise de régler ces problèmes tels qu'on a eu parfois l'ouverture du champ à la concurrence de domaines qui étaient des précarés associatifs pendant longtemps. Je pense notamment, par exemple, aux crèches.
Oui, alors effectivement, c'est un vrai risque. On a à cœur, en tout cas, dans le milieu associatif, de ce qu'on appelle la non-lucrativité. C'est vraiment le principe de la solidarité, de rendre un service, en tout cas, d'accompagner les personnes sans se faire de l'argent sur le besoin de ces personnes-là. On y est très attaché. Effectivement, il y a un risque. On l'a vu dans les crèches, on l'a vu aussi. On a beaucoup parlé des EHPAD, les maisons de retraite. On en a beaucoup parlé également. Donc, c'est un risque, certes. Et c'est là où, effectivement, on essaye, en tout cas, de défendre les valeurs et tout le tissu associatif, puisque l'associatif, c'est aussi quelque part une capacité d'innovation, de souplesse, d'agilité. Et c'est aussi souvent quand même dans des territoires qui ont été, on parle beaucoup de l'abandon de certaines zones des services publics, etc. Et finalement, c'est souvent le tissu associatif qui a été en capacité à un moment donné de prendre le relais de ces services publics qui se sont éloignés. Et donc voilà, là, on essaye effectivement, il y a un risque de partir sur le champ privé ou en tout cas sur un champ public, mais en tout cas, c'est en ce sens qu'on essaye vraiment de valoriser et de montrer ce qu'a donné à voir le tissu associatif.
Quand le tissu associatif prend le relais sur le territoire pour permettre le lien, la cohésion, c'est quoi ? C'est la soupape qui évite que ça pète sur le territoire ?
Oui, parce que comme vient de le dire Marine, on est capable, nous, d'aller dans les interstices que la lourdeur collectivité locale, politique publique a du mal à aller. On est capable d'aller dans... Alors l'innovation, hein, c'est le grand mot à un moment, c'est un grand mot qui sur lequel il faut faire attention. En tout cas, on est en capacité à chercher ou à apporter des réponses très rapides que d'autres ne peuvent pas apporter. Et je dirais même sur la construction de politiques publiques, on voit bien que si le monde associatif ne s'était pas mêlé de la problématique du sida, par exemple, ça part bien par des alertes du monde associatif, ACT UP, etc., qui ont dit il y a un sujet certes de santé publique, il y a un sujet social, etc., et il faut aller trouver des solutions ou des réponses. On voit bien que à partir des alertes de nos capacités d'innovation, mais dans du micro, hein, comment on accueille les personnes migrantes, les personnes sans papier, mais ça, Hugues en parlera bien mieux que moi, et ben on est capable de trouver des réponses que d'autres ne sont pas capables de trouver. Quoi.
Trouver la réponse adaptée, quelle que soit la politique publique qui veut être déployée par le pouvoir en place.
Trouver la réponse adaptée. Alors, si je prends les personnes en précarité, en réalité, les besoins qui étaient auparavant bien identifiés ont complètement changé. Déjà, la force publique a du mal à comprendre qu'il y a d'abord, un, des publics qui sont de plus en plus éloignés de l'emploi, de la santé. Deux, il y a des accompagnements de plus en plus compliqués à avoir. Et trois, une féminisation de la précarité, puisqu'on rencontre de plus en plus de femmes avec enfants, et je précise bien de gens qui travaillent et qui sont en précarité puisqu'ils n'ont plus les moyens de subvenir à leurs besoins personnels. Donc face à toute cette situation, tout cet état de lieu qui est alarmant et qui demande des financements supplémentaires, c'est à ce moment-là qu'on taille dans les financements, alors que les besoins en nombre et en qualité se modifient, on a besoin d'avoir des financements qui augmentent. Alors, il y a une problématique qui est à long terme de financement qui arrive d'une manière beaucoup plus réduite. Et puis, ce qui est le plus inquiétant à court terme, et c'est l'objet de la manifestation du 11 pour nos adhérents, c'est que les trésoreries en prennent un coup, puisqu'aujourd'hui, on n'est pas payé des prestations qu'on fournit. C'est-à-dire qu'au lieu d'être payé à 60 jours, 90 jours, on est payé à 120, 140, 150 jours. Et ce que je disais avant que vous arriviez, c'est qu'aujourd'hui tombe à petit feu une quantité d'associations petites et moyennes par manque de trésorerie et pas seulement par manque de financement. Ce qui veut dire que demain, on va avoir des besoins qui seront plus couverts, des projets nouveaux qui vont être arrêtés et des trésoreries qui seront hyper serrées. Et vous allez dire, c'est quoi la dernière répercussion ? C'est l'impact sur les salariés qui travaillent dans nos structures, puisqu'on ne peut pas revaloriser les salaires, on n'est plus attractif et on ne peut plus justement aller chercher les compétences dont on a besoin. Donc vous voyez, on est dans une spirale qui n'est pas vertueuse et au contraire qui se dégrade de jour en jour, ce qui explique le coup de gueule du 11.
Le mouvement associatif Hauts-de-France appelle à manifester pour défendre les moyens alloués à toutes les associations le samedi 11 octobre sous le slogan « Ça ne tient plus ». Rencontre avec le mouvement associatif Hauts-de-France, avec Thierry Coulon, son président, Marine Raquelboom, directrice de l'URIOPS Hauts-de-France, Hugues Deniel, président de la FAS, Fédération des acteurs de la solidarité, et Ondine Chorin, en charge du plaidoyer pour le mouvement associatif Hauts-de-France.
Ça ne tient plus, slogan clé de l'appel du mouvement associatif. Ma question, c'est est-ce que il a seulement une dimension financement des associations, ou est-ce que votre appel a un contenu qui va au-delà et qui pose notamment la question, paradoxalement, les associations, ça ne tient plus pour elles financièrement, mais elles sont de plus en plus tenues, et on assiste quand même à des affirmations autoritaires vis-à-vis du mouvement associatif, des associations, notamment avec cet engagement, le contrat d'engagement républicain, qui introduit quand même un peu d'arbitraire avec cette notion de trouble à l'ordre public.
Oui, ce mouvement-là, il est plus un sou de moins pour le monde associatif. C'est central, mais bien évidemment, on est aussi dans un contexte, en tout cas, où les libertés associatives, de manière générale, sont écornées. Hein. On parlait du contrat d'engagement républicain. Évidemment, hein, ce projet de loi qui partait de la fameuse loi contre le séparatisme, etc., a vite basculé et devient un instrument, et on l'a vu dans les Hauts-de-France, sur un certain nombre d'associations, de solidarité, notamment, autour de solidarité, autour de l'environnement, qui sont titillés, voire où on leur coupe les financements et les moyens de vivre, parce qu'on n'est pas sur la bonne ligne. Donc oui, nous, depuis le début, on s'est opposé, on a demandé à corps et à cri la suppression de ce contrat d'engagement républicain, qui porte également sur quelle confiance, quel rapport de confiance entre nos dirigeants et le monde associatif. C'est aussi un sujet de confiance, puisque a priori, si on pose ce contrat d'engagement républicain, alors que ce sujet de la relation avec les politiques publiques, il y avait moyen de le traiter ou de le régler. L'arsenal existait déjà pour dire est-ce qu'on doit répondre aux valeurs de la République, vu nos engagements, et notamment les engagements des bénévoles au service avec et pour nos concitoyens. On n'avait pas de leçon de République à recevoir de quiconque, quoi.
C'est un angle, un axe du plaidoyer actuel.
Oh oui, tout à fait. Hein. Ça fait quand même un certain nombre d'années maintenant, 2 ans que le contrat d'engagement républicain est mis en place. Donc on a fait plusieurs alertes sur le sujet. On essaye toujours de quantifier, documenter les différents témoignages qu'on peut recevoir des associations qui subissent ce contrat d'engagement républicain. Et on essaye toujours de faire abroger ce contrat d'engagement républicain dans notre plaidoyer.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est encore exigible ?
Oh oui, toutes les associations qui demandent une subvention, qui bénéficient d'un prêt de salle, par exemple, pour leurs activités ou pour un événement ou autre, doivent cocher une case sur le document signifiant qu'elles ont signé ce contrat d'engagement républicain. Donc cette case, elle est un peu insidieuse, parce qu'il y a beaucoup d'associations qui ne se rendent même pas compte qu'elles la signent, parce que ce n'est pas très clair, c'est vraiment une petite croix sur un document administratif. Et ça, on le signale, c'est pas honnête et c'est pas visibilisé pour les associations qui s'engagent sur ce contrat d'engagement républicain.
Alors autour de l'appel du 11 octobre, vous avez produit une alerte qui, on peut l'espérer, aura de l'écho dans la population. En tout cas, je pense que c'est ce à quoi vous visez. Est-ce que vous avez franchi un pas au-delà de cette alerte en termes de formulation de revendication ?
Oui, hein, parce que cette alerte qui est, je ne dirais pas que c'est une alerte ultime, parce que pour nous, c'est un commencement. Le commencement, c'est de dire il faut qu'il y ait un sursaut politique qui est aussi un sursaut des citoyens. Notamment, nous, on sera dans la rue dans les Hauts-de-France. Hein, d'autres ont choisi d'autres modes de mobilisation. Nous, on sera dans la rue pour montrer que, un, dans nos diversités, ça ne tient plus. Et donc, il faut qu'il y ait un sursaut aussi bien des gens qui travaillent avec nous, des habitants qui bénéficient des actions et des activités de l'association, mais également des pouvoirs publics. Donc, pour nous, c'est une première étape pour dire on a essayé, on a fait des tribunes, on a fait des rencontres. Il y a eu un appel des collègues des Restos du Cœur, il y a eu un appel des collègues des plannings familiaux, etc. Tout le monde y allait. Il y a eu les métiers de l'humain qui étaient dans la rue, il y a eu les centres sociaux qui ont réuni 4000 personnes il y a 2 ans dans les rues de Lille. Donc on y allait tous de manière sectorielle. Là, pour la première fois, à ma connaissance, c'est qu'on y va groupé. Et on y va des sportifs, aux acteurs de la solidarité, au monde culturel. Enfin bref, on y va dans notre diversité. Donc c'est de dire, à un moment, ça pourrait être stop. Mais Hugues peut en parler de décisions qui ont déjà été prises par son mouvement, de dire, ben, s'il n'y a plus les moyens, on ne fait plus. Et interrogeons-nous sur ce que serait un monde sans association, en tout cas une France sans association, au niveau de la petite enfance, au niveau des personnes âgées, au niveau de la solidarité, au niveau de l'occupation de l'espace public vers les plus en difficulté. Mais je pense que Hugues peut donner un exemple un petit peu de décisions qui ont été prises par son mouvement.
Le fait, le 11, c'est un fait, c'est un cri d'alerte, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est sensibiliser la population, le public, en disant si toutes les associations ne font plus leur travail demain matin, mais il y a toujours cette menace qu'on brandit, mais on ne le fait pas tellement tient à cœur dans tous nos accompagnements, qu'est-ce qui se passerait dans la vie des citoyens de tous les jours? Qu'est-ce qui se passerait? Et il est arrivé, moi, pour la première fois en tant que président, de répondre négativement à une demande qui était faite d'accompagnement, puisque je trouvais que le financement n'était pas suffisant. Et en tant que président, je ne voulais pas engager ma fédération. Donc j'ai refusé, contre cœur, de le faire. Alors bien sûr, on a des propositions à faire. Ces propositions, d'abord, c'est respecter le travail que l'on fait au quotidien, respecter le travail, parce que s'il n'y avait pas tous les bénévoles qui étaient là aussi, dans les gouvernances, et aussi dans l'accompagnement, dans les maraudes et dans toutes les actions du quotidien, combien l'État devrait dépenser? Nous, on l'a chiffré, c'est 2 ETP. Dans ma fédération, on est 9, hein, à la fédération. On est 9, eh ben, ça ferait 2 ETP en plus. Voilà, c'est un exemple tout simple. Et je pense que là, si on regarde financièrement demain, et c'est ça, j'espère qu'on va prendre conscience, c'est savoir qu'on puisse être payé normalement à 60 jours, qu'on puisse voir des contrats pluriannuels, puisque là, ça permettra de bâtir des projets dans le temps, et puis avoir des projets qui aient des réponses adaptées. Et même si on trouve des compléments de financement, qu'on ne soit pas obligé de parler finances à longueur de journée pour justement justifier notre survie au niveau de certaines structures.
Pour compléter et puis élargir légèrement le propos, rappeler que les associations, là on parle évidemment parce qu'on est des représentants de secteurs qui sont vraiment sur les solidarités, mais les associations c'est aussi le sport, la culture, les radios. Et donc c'est un monde sans association, c'est aussi finalement toute une jeunesse, et pas qu'une jeunesse par ailleurs, mais en tout cas qui a beaucoup moins d'activités, beaucoup moins d'offres, en tout cas de possibilités de s'ouvrir vers l'extérieur, de s'ouvrir vers le monde sportif, vers le monde culturel. Et ça aussi, il faut l'avoir en tête, que le monde associatif, c'est aussi tout ce lien social-là, cette cohésion sociale-là. Mon président aime à dire que les associations, c'est le ciment des solidarités, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment un ciment du lien social. Et donc voilà, il faut penser qu'un monde sans association, c'est quand même un monde où à un moment donné, les gens sont un peu face à eux-mêmes et un peu moins ouverts vers l'extérieur et vers l'autre.
Est-ce que ces tracasseries financières, budgétaires, ça peut porter un coup à la volonté d'engagement de citoyens dans le monde associatif et notamment en poste de dirigeant d'association?
C'est un gros sujet pour nous. On voit que la résignation n'est pas encore totale, mais en tout cas, le découragement est présent chez beaucoup d'administrateurs, d'administratrices d'associations, de bénévoles engagés qui disent tout ça pour un moment ne pas se sentir respecté. Là, moi, j'ai beaucoup de responsables associatifs qui disent finalement, tout le monde se fout de nous, quoi. On fait, comme on dit, on fait parce que, même avec des moyens moindres, parce qu'on y croit, etc. Et là, je pense que c'est très dangereux, cette espèce de sentiment de non-respect qui peut aller vite sur de la résignation. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, Luc, ben on y va, si c'est comme ça, on n'y va plus. Je reste chez moi, ça c'est sur le côté. Et d'ailleurs, de plus en plus de personnes ont du mal ou n'ont de volonté de s'engager dans les instances d'association, puisque une association, c'est un cadre réglementaire, c'est un cadre juridique, l'association loi 1901, donc on a des responsabilités au-delà de ce qu'on fait avec les habitantes et les habitants. On est aussi responsable de budget, responsable quelquefois de salariés, et les gens se disent mais je m'engage, je prends beaucoup de temps, je termine des réunions à 22h, je suis là le samedi, je suis là le dimanche, etc. Et j'ai l'impression de ne pas être respecté. C'est le côté, ça, engagement bénévole. Ensuite, on a commencé à le parler, c'est l'attractivité. Mon associatif, c'est aussi beaucoup de salariés qui souvent mêlent un engagement professionnel à une envie de faire bouger les choses dans cette société. Et aujourd'hui, on a un sujet autour de l'attractivité. Est-ce que j'ai envie d'être salarié dans un monde qui est moins bien respecté ? J'ai envie de m'engager parce qu'on sent que chez les jeunes salariés, il y a une envie d'engagement, quoi qu'on en dise. On a envie de s'engager, mais pas forcément respecté, les contrats, on a du mal à stabiliser les contrats dans le temps, on en a parlé tout à l'heure, les salaires ont du mal à suivre, puisque comme on est aussi quand même globalement des dirigeants non lucratifs, très vertueux, on essaye d'équilibrer comme on peut, donc quelquefois c'est compliqué d'accompagner des salariés dans un parcours professionnel, alors qu'ils ont plein de qualités, ils se retournent vers d'autres engagements et d'autres parcours professionnels.
Le monde associatif, un acteur majeur de l'économie sociale et solidaire, également avec une économie qui répond à des enjeux de préoccupation aujourd'hui, non délocalisable, en proximité, une économie tout à fait vertueuse.
Oui, totalement. On a tout dit. On sent qu'on est assez vertueux. Alors, dans le monde de l'économie sociale et solidaire, et en particulier dans les associations, on répond à un certain nombre d'objectifs. Par exemple, sur la transition écologique, par exemple, ou la transformation écologique, on n'a pas attendu, nous, qu'il y ait des grands plans pour être vertueux là-dessus. Et le nombre d'associations qui sont engagées résolument, je pense à tout le réseau des ressourceries, par exemple, des Repair Café, etc. Donc on a essayé, et là aussi on est dans l'innovation. On essaye de réinventer avec l'imagination au pouvoir des gens dans la proximité. Je pense qu'on est en tout cas assez vertueux là-dessus, et on cherche les petits ruisseaux qui font les grandes rivières, mais en tout cas, on est là-dessus. Donc, de manière sociétale, c'est intéressant d'aller nous observer.
Le mouvement associatif Hauts-de-France appelle à manifester pour défendre les moyens alloués à toutes les associations le samedi 11 octobre sous le slogan « Ça ne tient plus ». Rencontre avec le mouvement associatif Hauts-de-France, avec Thierry Coulon, son président, Marine Raquelboom, directrice de l'URIOPS Hauts-de-France, Hugues Deniel, président de la FAS, Fédération des acteurs de la solidarité, et Ondine Chorin, en charge du plaidoyer pour le mouvement associatif Hauts-de-France.
Alors, en cette rentrée, on assiste à de fortes mobilisations sociales. Bloquons tout le 10 septembre. Mobilisation, manifestation et grève intersyndicale le 18 septembre et le 2 octobre. Est-ce que, pour vous, il y a une possibilité de convergence entre cette mobilisation sociale-là et puis la mobilisation associative à laquelle vous travaillez ?
En tout cas, avec les syndicats, on l'a dit, 2 millions de salariés dans le monde associatif, ce qui n'est pas rien. Alors, bien évidemment, on est en échange, d'ailleurs, par rapport à cette mobilisation avec le monde syndical dans sa diversité. On a convenu quand même avec le monde syndical également, c'est qu'on voulait avoir une visibilité forte pour nous. Donc je pense que les syndicats de salariés seront présents. Quelquefois, ils nous appuient un peu logistiquement sur du matériel, sur des choses comme ça. Ils seront présents. On leur a demandé plutôt de se situer en fin de parcours pour ne pas invisibiliser ce qu'on est. Mais en tout cas, sur des revendications sociétales, sur des revendications, on l'a posé parce qu'on est aussi des employeurs avec nos réalités, mais aussi des employeurs qui se voulons également vertueux sur le statut de nos salariés. On a des conventions collectives, etc. Donc il y a de la convergence des luttes sur notre manière de traiter notre personnel, même si tout le monde n'est pas vertueux. Donc en tout cas, on échange. Alors par exemple, tout le combat sur le projet de loi de finances, il est commun. C'est-à-dire que ça ne nous convient pas. Le combat sur les retraites, c'était aussi un combat pour nous, parce qu'on sait très bien qu'on a beaucoup de personnes qui arrivent à la retraite ou qui sont retraitées, qui sont aussi le ferment de notre engagement, ou en tout cas qui représentent beaucoup de personnes qui sont dans les instances de pilotage des associations. Et toutes ces personnes qu'on va décaler également à l'arrivée, ben ça décale nous aussi dans le temps de l'engagement. Donc en tout cas, il y a un certain nombre de combats, de revendications qui sont communes. En tout cas, on est sur des convergences de sens. C'est un moment qui tient plus, quoi, qui tient plus dans notre société. Donc, on échange et on essaye chacun dans ses responsabilités d'être cohérent et d'être en complémentarité, quoi. Je pense que le sujet de la convergence sera à un moment un sujet, quoi.
Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce qui va se passer concrètement le samedi 11 octobre à Lille, avec sa dimension régionale?
14h. Porte de Paris. Hein.
14h, porte de Paris, donc une manifestation, c'est-à-dire qu'on va bouger, on va marcher dans les rues de Lille, de Porte de Paris, à Place de la République, avec Place de la République, des prises de parole du monde associatif dans sa diversité. Il y aura quelques trucs un peu sympathiques également, des stands, des démonstrations également de ce qu'on est, de ce qu'on fait dans les associations, avec symboliquement un dress code, je sais pas comment dire, enfin, mais donc là, ce qu'on veut renvoyer en rouge et noir, le noir qui symboliquement dit voilà, il se passe des choses qui peuvent être funestes pour beaucoup d'associations et pour les actions qu'on dépose. Et le rouge qui dit, voilà, on a encore un peu d'énergie à donner à la société et on va l'apporter. Et donc, voilà, il y a un certain nombre de slogans qu'on est en train de préparer. Alors, on veut que ce soit cohérent à tous les endroits de France. On est quasiment les seuls où il y aura une manifestation, les autres vont être sur des choses de blocage, il y aura une manifestation également plutôt rassemblement, c'est Place de la République à Paris également, où là ce sera plutôt un village associatif. En tout cas, nous, ce qu'on veut montrer, et on espère beaucoup de monde, hein, on espère bien sûr une participation des associations, mais aussi un sursaut citoyen, enfin, j'appelle ça moi un sursaut citoyen, pour dire il faut montrer qu'on existe dans nos réalités. Voilà, on espère une démonstration également qu'on existe en dehors de nos réalités de proximité, quoi.
Et la mobilisation est souhaitée chez les responsables d'associations, les bénévoles d'associations, les usagers, parfois comme il faut les appeler, mais également à tout citoyen ou professionnel d'association.
Tout à fait. Et puis les mouvements un peu, les mouvements syndicaux vont sans doute nous rejoindre, mais on veut également et on a aussi un appel particulier auprès des décideurs locaux et notamment des maires. On va rentrer dans une période électorale. On pense que dans la cohésion sur chaque territoire, dans chaque ville, etc., les associations sont centrales, quoi. Qu'il suffit pas de faire une belle association, une fête des associations avec trois majorettes et un peu de musique pour dire c'est ça soutenir le monde associatif, mais de dire si nous on est touchés, vous serez touchés. Qu'est-ce que vous avez à dire, vous maire, vous futur candidat, etc., dans ce moment un peu particulier. On va sans doute aussi après interpeller les forces politiques dans leur diversité pour dire il se passe des choses dans 6 mois, au mois de mars. Pensez à nous, parce que penser à nous, c'est penser à une ville apaisée, avec de la cohésion, de la cohérence et de la vie sur vos territoires, quoi.
J'aimerais ajouter un mot à vos auditeurs associatifs ou citoyens citoyennes. Ils peuvent se rendre sur le site sanetientplus.org. Ils y retrouveront une cartographie de l'ensemble des mobilisations sur le territoire national. Il y a plus de 100 mobilisations qui sont référencées. Et également sur le site sanetientplus.org, il y a un kit de mobilisation à leur disposition pour organiser tout un type d'action avec des fiches pratiques sur comment mettre en place ces actions pour les accompagner.
Nous étions avec les représentants du mouvement associatif Hauts-de-France, Thierry Coulon, son président, Marine Raquelboom, directrice régionale de l'URIOPS, Hugues Deniel, président de la FAS, Fédération des acteurs de la solidarité, et Ondine Chorin, chargée de mission en charge du plaidoyer pour le mouvement associatif Hauts-de-France. Le mouvement associatif Hauts-de-France vous invite à le retrouver le samedi 11 octobre à Lille, Porte de Paris, à 14h, défilé vers la place de la République.
un mouvement soutenu par la Fédération des radios associatives du Nord de la France. Interview Jean Pasqualini, Hervé Dujardin, une production de la Fédération des radios associatives du Nord de la France, la FRANF.